Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous, je suis Laurence Roger-Grivel, directrice transition écologique, et avec Jean-Baptiste Léger, le chef du pôle transition écologique du MEDEF, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire « Entreprises et océans, climat, plastique et biodiversité, des outils pour agir ». C'est la troisième année consécutive que nous organisons un webinaire sur l'océan en partenariat avec la Fondation de la mer. Et chaque fois, vous êtes plus nombreux à vous inscrire. C'est important car nous le savons, la biodiversité est désormais menacée et à travers elle, tout le fonctionnement de la planète vivante. L'océan est cet immense écosystème que nous avons longtemps considéré comme un garde-manger sans fin et puis aussi une poubelle sans fond. Et les scientifiques nous alertent sur sa dégradation rapide, l'urgence à retenir l'acidification, à préserver les écosystèmes marins, les ressources halieutiques, à réduire les déchets. Parce que l'océan est indispensable à l'humanité, il couvre les deux tiers de la planète, nourrit 1 milliard de personnes, joue un rôle clé dans la régulation du climat, fournit 50% de l'oxygène que nous respirons, abrite une grande partie de la biodiversité et il est le support de nombreuses activités économiques majeures. L'économie bleue mondiale offre de grands potentiels, les énergies marines renouvelables, les nouvelles molécules pour la santé, les nouvelles ressources alimentaires, la mondialisation est maritime, 90% de nos marchandises sont transportées par des grands navires, les câbles sous-marins transportent 99% de nos données Internet. Et beaucoup d'entreprises, notamment maritimes, sont organisées, par exemple autour du cluster maritime français. Elles agissent, elles avancent vers des modes de gestion plus durables autour de l'ODD 14. Et c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que désormais, ce sont toutes les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs qui sont concernés par les océans et qui doivent l'intégrer dans leur stratégie. Et bien que vital pour l'humanité, l'océan a pourtant fait l'objet d'une attention inférieure à son importance. Une gouvernance d'ensemble se met progressivement en place. Elle est encore incomplète. Les choses avancent et nous allons en parler avec nos invités. La France est une grande puissance maritime. Elle entend jouer un rôle particulier. L'année de la mer qui s'ouvrira en septembre 2024 va susciter une large mobilisation des acteurs publics et privés en France et au niveau mondial. La France se prépare à accueillir la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce sera à Nice en juin 2025. Et l'ambition de la diplomatie française est remarquable car il s'agit d'en faire la COP21 de l'océan. Ce contexte sera marqué par l'élaboration d'un traité international à caractère contraignant sur la pollution plastique. Il est en cours de discussion et il aura bien évidemment des conséquences pour les entreprises. Et tout cela rend d'autant plus important l'action volontaire des entreprises françaises pour contribuer à une gestion plus durable. Des outils existent et nos invités sont là pour vous les présenter. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos invités et notre programme. Sabine Route-Bézieux, présidente de la Fondation de la mer que nous connaissons bien et qui nous présentera le contexte, les enjeux et les opportunités. Ensuite, nous entrerons dans le cœur de cette année 2024-2025, année donc dédiée à l'océan. Nous avons le grand honneur d'accueillir Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur, envoyé spécial du président de la République française pour la Conférence des Nations Unies sur l'océan, ainsi que Guillaume Thieriot, chef de projet Conférence Océan des Nations Unies au secrétariat d'État chargé de la mer. Ce panorama sera ensuite complété par la présentation du futur traité international sur les plastiques par Alexandre Yachine, que vous connaissez également et qui est délégué général de la Fondation de la mer. Et nous resterons avec la Fondation de la mer qui nous présentera des outils pour aider les entreprises à mesurer leurs impacts et les accompagner et se transformer. Et c'est Vincent Duré, directeur des programmes de la Fondation de la mer, qui nous les présentera. La parole est à Sabine Route-Bézieux.
Bonjour à tous. Ça peut paraître improbable de parler de mer quand on parle d'entreprise. Et souvent, les entreprises sont assez peu préoccupées des questions de mer et d'océan. Pourtant, chacun de nous sait le lien qui nous attache, parfois émotionnellement, aux espaces maritimes. Et nous savons aussi combien nos collaborateurs, parfois nos clients, sont aussi sensibilisés par les questions qui touchent l'océan. C'est sur ce fondement que travaille la Fondation de la mer, avec la conviction que la mer n'est pas l'apanage des seuls marins, mais concerne l'ensemble des citoyens de cette planète Terre, qu'on devrait d'ailleurs appeler la planète mer, puisque la mer, l'océan, recouvre plus de 70% de sa surface. La Fondation de la mer agit, soutient tous ceux qui s'engagent pour un océan propre, libre et valorisé avec sagesse. Et pour faire cela, nous avons des programmes de soutien à la recherche, puisque nous connaissons encore très peu l'océan. C'est encore la dernière frontière de l'univers, la dernière frontière du vivant, on pourrait dire, puisque nous avons encore plus de 80% des espèces marines à découvrir, puisque les grands cycles océaniques nous sont encore assez méconnus, et puisque les abysses, tout ce qui se trouve au-delà de 100, 200 mètres de profondeur, les grands fonds marins, sont également encore très inconnus et font l'objet de découvertes scientifiques à chaque grande expédition. Donc la recherche, évidemment, en deuxième lieu, la protection des écosystèmes marins. Vous les connaissez sous des noms moins barbares que écosystèmes, les récifs coralliens, les mangroves ou les herbiers comme les herbiers de Posidonie. Ce sont les espaces dans lesquels la vie marine se déploie, dans lesquels toutes les espèces marines peuvent se reproduire, se nourrir, se protéger. Troisième sujet d'intervention de la Fondation de la mer, c'est la lutte contre les pollutions et en premier lieu la pollution plastique, dont Alexandre Yachine, le délégué général de la Fondation de la mer, vous parlera tout à l'heure. Et puis enfin, l'éducation, la sensibilisation qui commence chez les plus jeunes avec le partenariat que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale et qui va jusqu'aux entreprises, puisque ce sont les entreprises qui êtes représentées aujourd'hui. J'ai repéré des représentants du MEDEF nationaux, des MEDEF territoriaux, mais aussi de toute une série de fédérations qui manifestaient par votre présence votre compréhension du lien qui relie la chimie, une petite main qui fait coucou, voilà, la chimie, le bâtiment, la métallurgie, toute l'industrie à nos océans. La Fondation de la mer agit sur le terrain avec 300 associations sur tout le territoire métropolitain, mais aussi outre-mer, puisque je vous rappelle que la France est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais grâce à nos outre-mer sur tous les océans de la planète. Des associations également situées dans les pays de la francophonie, puisque nous portons notre belle langue française au-delà des frontières de la France. Nous travaillons aussi avec des établissements scolaires également répartis dans toute cette zone de la francophonie. Mais pour agir, évidemment, il faut aussi aller travailler avec les entreprises. Donc merci encore à vous tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui. Et puis au niveau politique, en France, à l'Europe et à l'international. Et donc je salue et remercie Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur pour les enjeux maritimes et les pôles, d'être présent aujourd'hui pour nous expliquer les enjeux stratégiques de la France pour les années à venir, et en particulier cette conférence de l'ONU pour l'océan qui se tiendra en juin 2025 à Nice. Tout à l'heure, on vous a dit que l'océan, c'était un enjeu, une source d'opportunité. Je voudrais d'abord rappeler la mauvaise santé de l'océan, puisque l'océan, vous le savez, c'est le régulateur du climat. La moitié de l'oxygène de l'atmosphère provient de l'océan. On l'oublie souvent. Nous avons un poumon vert et un poumon bleu. Et donc, les excès d'émissions de gaz à effet de serre touchent en premier lieu l'océan. La biodiversité marine est extrêmement menacée. On parle d'un tiers des récifs coralliens, un tiers des mammifères marins qui sont en voie d'extinction. Et puis, une pollution plastique sur laquelle on reviendra tout à l'heure qui menace également non seulement les écosystèmes marins, mais aussi notre santé à nous sur la Terre. Mais ce sont des opportunités que l'océan nous apporte. Au-delà de la dimension du transport maritime ou des câbles sous-marins, l'océan est une solution pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque s'il émet la moitié de l'oxygène, il absorbe également un tiers du CO2. Et donc, des solutions de carbone bleu, de séquestration de carbone, existent dans l'océan et sont encore des domaines à développer. L'océan est aussi une solution, puisque c'est grâce à l'océan que nous pourrons nous abreuver nous nourrir, nous soigner et produire de l'énergie. Et donc cet océan est un océan de solutions et d'opportunités pour les entreprises, à condition que nous sachions le respecter dans la durée. C'est ce à quoi nous, à la Fondation de la mer, nous nous attachons avec nos partenaires, l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. Je vous remercie et je suis heureuse de passer la parole à Olivier Poivre d'Arvor.
Merci beaucoup à vous, Laurence, merci Sabine, et merci de nous donner avec Guillaume Thieriot l'occasion de vous présenter en fait ce qu'est la vision française d'un leadership que nous ne voudrions pas laisser à d'autres, sinon l'avoir à nous seuls, mais en tout cas le porter avec les valeurs qui sont les nôtres, avec ce que Sabine a rappelé, à savoir une puissance d'équilibre maritime. Nous sommes la puissance d'équilibre maritime au monde, la plus grande puissance maritime d'équilibre au monde. Ça ne veut pas dire la plus grande puissance maritime, la plus grande puissance maritime d'équilibre. Nous avons un équilibre qui est installé sur en fait les 5 étoiles de la mer, si on voulait prendre une petite image, la première branche étant évidemment la gouvernance, le territoire. Nous sommes aujourd'hui la deuxième surface exclusive économique mondiale, juste après les États-Unis. Un petit recalcul du plateau continental nous permettra bientôt de passer première. Voilà, donc nous avons cette surface-là, nous avons une mer qui n'est pas homogène. C'est une mer qui nous offre cette possibilité d'être une mer monde et d'être un pays monde aussi. Nous sommes un pays monde par les grands bras ouverts que nous avons, avec une tête aussi dans le Pacifique, une tête dans l'Atlantique, et donc avec Saint-Pierre et Miquelon et les terres australes antarctiques françaises, dans le fond, sur l'ensemble des latitudes du monde. Ça, c'est la première branche. La seconde branche, évidemment, c'est non négligeable, c'est la puissance militaire. C'est que nous avons encore une capacité de nous projeter, justement, d'ailleurs, beaucoup grâce à nos outre-mer, dans différents endroits de la planète. La troisième, dans le fond, c'est vous. C'est la puissance économique. L'océan est une bonne affaire. Ça pourrait devenir bientôt une très mauvaise affaire. C'est ce que pensent les assureurs de plus en plus, qui peut-être nous entendent pour certains. Mais c'est encore une bonne affaire aujourd'hui. Parce que dans le fond, on ne paye pas grand-chose pour circuler, il n'y a pas de péage, différence entre l'autoroute et l'océan. C'est gratuit. Et c'est gratuit, donc on traverse, on permet à 95% du commerce mondial de passer par là. Donc c'est plutôt bien. C'est plein de poissons. Et puis même ça, quand ça disparaît, ça revient. Parfois, on arrive à trouver, si on est un peu prudent, les moyens de faire revenir les espèces. Et ça nourrit aujourd'hui 3 milliards de personnes. Et puis ça fait vivre aussi tout un réseau, évidemment, de pêche, d'aquaculture aujourd'hui. Ça va nous donner de plus en plus d'énergie. On est un peu en retard, nous, Français. Hein. Franchement, je n'étais pas là dans l'histoire il y a 20 ans, mais je pense que des décisions ont manqué, que les Allemands et les Pays-Bas ont prises à l'échelle européenne et les Britanniques aussi. Et bon, voilà, on va rattraper un peu trop tard. Mais l'éolien est évidemment, en plus des autres formes de ressources, un élément important. Je ne vais pas vous décliner l'ensemble des avantages économiques que prend la mer, mais enfin, le tourisme en est une. Pour nous, pays, je crois qu'on a calculé que si la France n'avait pas de littoral, elle aurait 15 millions de touristes. Elle en a 80 ou 90. Donc les gens ne viennent pas uniquement pour aller à Paris, mais ils viennent évidemment pour être sur nos bords de mer et puis évidemment dans notre territoire ultramarin. Là, je ne vais pas développer tout ça, mais la quatrième branche, c'est évidemment la science dont nous avons besoin. Et là, il y a une relation forte entre l'entreprise et la science. Pas assez forte en France, à mon avis, encore, mais elle devient. Elle est beaucoup plus forte aux États-Unis. C'est vrai que la mer peut procurer toutes sortes de solutions. Elle reste encore, pour l'instant, minime sur le plan pharmaceutical, sur le plan médical, sur le plan la cosmétique, etc. Et je pense qu'il y a là quelque chose à construire, une industrie tech de la mer à un certain niveau. Voilà, ça c'est la branche économique, mais vous la connaissez très bien. La quatrième, la science dont j'ai parlé rapidement, elle est indispensable parce qu'elle va nous permettre de connaître ce que nous ne connaissons pas. La Fondation de la Mer a d'ailleurs fait un très bon travail sur les grands fonds marins. Nous ne connaissons pas cette affaire-là, voilà. Donc, mais vraiment très mal, parce que c'est difficile, c'est profond, c'est obscur, parce que les ondes ne passent pas, et voilà, et donc parce que ça fait peur. Et parce que c'est méchant la mer, c'est pas gentil, c'est pas là, ça vous tend pas les bras, et donc c'est pas évident. La cinquième branche, enfin, c'est celle de la protection, c'est celle de l'environnement. Et là, je voulais un tout petit peu m'étendre parce que vous avez, vous, cette capacité, cette responsabilité que vous avez pour, je crois, l'immense majorité des entreprises, cette responsabilité environnementale au cœur. Aujourd'hui, 10 octobre, tout va bien, c'est formidable, nous sommes à Paris, très bien reçus au MEDEF, il fait 27 degrés et peut-être une pointe dans une demi-heure à 28 degrés, nous dit la météo. Il y a 10 ans exactement, il faisait 14 degrés à Paris le 10 octobre, il y a 10 ans exactement, donc en 2013. Alors, on ne peut pas comparer la température à 16 heures à Paris d'une année sur 10 ans après. Mais enfin, tout de même, ça vous dit quelque chose. Et donc, mon corps, qui est un corps qui a déjà vécu un certain nombre d'années, ne s'y retrouve pas. Nous sommes en octobre à Paris et on se demande si on ne va pas commencer nos vacances. Si, donc, quelque chose de sympathique peut apparaître. Enfin, je voudrais juste vous signaler en tant qu'ambassadeur des pôles et des océans les deux, trois conséquences de la chose. C'est que depuis maintenant 2 mois, jamais la chaleur en Arctique n'a été aussi importante dans l'histoire du monde mesurée. Alors ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'années qu'on sait qu'il y a eu des réchauffements, des refroidissements, mais enfin, en tout cas, on calcule ça depuis 200 ans. Et donc, jamais en Arctique, ça n'a jamais été aussi chaud. Le réchauffement est 3 fois plus à 4 fois plus important, et là, il est 4 fois plus important en Arctique que le reste du monde. Qu'est-ce qui se passe, tout simplement, et on va arriver partout, partout à tous nos sujets, c'est que vous avez une partie importante de l'île d'Andis groenlandais qui fond à une vitesse qu'aucun scientifique de l'IPCC, enfin du GIEC, n'avait prévu. C'est un désastre, un effondrement de la cryosphère et qui fait que, miracle et bonheur pour nos amis russes, entre guillemets, ils vont pouvoir enfin, un jour, en 2040, emprunter ce passage du Nord-Est qui permettra à nos amis chinois, avec eux, de peut-être renverser une part du commerce mondial qui est aujourd'hui évidemment très centralisé autour de Suez et de la mer Rouge. Donc voilà, donc c'est intéressant, il y a des perspectives économiques. Alors est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ça, c'est un sujet pour les entrepreneurs. Le patron de CMA-CGM, Rodolphe Sadé, a dit, en effet, par le danger que présenterait le passage des porte-containers et l'ensemble du commerce mondial par le nord de l'Europe, ces bateaux n'y passeraient pas. Je crois que Merckx se joint aussi à cette déclaration. Mais je pense qu'il y a quelques actes symboliques comme ça qui sont très importants. Je crois que l'engagement des entreprises, notamment aussi sur le plastique, a été très très bien noté. Et je pense que vous pouvez vraiment, par votre engagement les uns les autres, faire que ce désastre climatique qui s'annonce, et je ne suis pas du tout catastrophiste de nature, simplement, dans ma spécialité aujourd'hui, j'observe que la moitié de nos glaciers, pour ceux qui préfèrent les montagnes à la mer, bien que parfois dans certains pays il y a la double peine, comme en Inde, où les glaciers fondent et où évidemment aussi le niveau de la mer augmente, mais les glaciers européens vont tous disparaître, tous, tous, tous. Quand? En 2050, c'est demain. Les glaciers du monde vont en partie, ils sont 200 000 aujourd'hui, il y en aura 100 000 de moins puisque les Européens ont fondu. Les glaciers du reste du monde, c'est-à-dire la chaîne de l'Himalaya, le Kilimandjaro, l'Amérique latine, évidemment les glaciers nord-américains aussi, vont tous disparaître d'ici 2100. Donc le Népal, par exemple, un des sujets du Népal, c'est que une partie de son économie repose sur les droits de visite pour aller visiter les sommets du Népal ou de l'Himalaya, ou la Chine aussi, et donc cette opportunité se présentera de moins en moins dans les années à venir. Nous sommes dans ce qu'on appelle le boiling ocean, en fait, c'est ce qu'a dit Antonio Guterres, le monde est en ébullition. Voilà. Alors c'est quoi? Il n'y a pas de fautif, simplement on sait une chose, il faut le répéter. Alors je le dirai à ma manière, mais c'est pas moi-même je suis coupable. Il faut arrêter d'aller chercher au fond des océans ce qui s'y trouve très bien. Laissons dormir le charbon, laissons dormir le gaz naturel, laissons dormir le pétrole. Si on va le chercher, bon, allons le chercher. Mais on sait très bien qu'on sera à 4 degrés. Christophe Béchu l'a annoncé, l'a dit. Bon, c'est un engagement politique, c'est quand même quelque chose d'ici 2100, 4 degrés. Alors, je pense qu'on a tous les enfants, on a tous surtout envie quand même de construire un monde un peu plus juste. Donc, cette question des énergies fossiles, elle est essentielle. Alors, évidemment, il faut être très conscient que cette transition doit se faire, que ça prend du temps. Il faut que ça prenne le moins de temps possible. On n'a plus le temps de prendre son temps. Et 2100, c'est véritablement demain. Donc c'est vraiment ce pourquoi nous, Français, puissance d'équilibre que nous sommes, à différence des autres grandes puissances, peut-être du Conseil de sécurité, qui vous avez remarqué d'ailleurs, les cinq grandes puissances du Conseil de sécurité sont toutes des grandes puissances maritimes, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, c'est les grands pays maritimes. Nous sommes cette puissance d'équilibre, c'est qu'on ne cherche pas à faire la guerre, on ne cherche pas à dominer, on ne cherche pas à envahir notre Taïwan à nous, on n'a pas de sujet de ce type-là, ou très peu en tout cas de souveraineté. Et c'est une responsabilité que le président de la République a prise en lançant maintenant, il y a un an et quelques mois, à Brest, le One Ocean Summit, en pleine présidence française, d'être le premier président de l'Union à mettre l'océan en tête de l'agenda politique européen. Pour les raisons qu'on évoque, pour les raisons positives que Sabine a très bien évoquées sur toutes les opportunités, les avantages que présente l'océan, mais aussi les risques que présente l'océan. Car aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes à quelques années de 2050. En 2050, nous serons 10 milliards. Sur ces 10 milliards, 75%, donc 7 milliards 500 millions, seront à moins de 75 km d'un littoral. Alors, il y a cette fascination comme ça du danger qui fait qu'on s'approche de plus en plus de la mer. On l'a vu pendant le Covid. Et pendant ce temps-là, bah, plus on s'approche, plus on abîme la mer. Hein, on l'abîme à travers l'éjection, après les rejets, à travers l'assainissement mal contrôlé, à travers un tourisme parfois pas scrupuleux. On l'abîme évidemment à travers l'artificialisation des fonds marins, la destruction de la biodiversité. Donc on lui fait mal. Et cette bestiole-là est très vivante, l'océan. C'est fait de plein de vie, à commencer par les éponges, qui sont des animaux comme tout le monde le sait. Et cet océan, cette pression qu'il reçoit, à laquelle s'ajoute la pression des effets du changement climatique, vous savez que l'élévation du niveau de la mer est promise à 1,20 m. 1,20 m pour la fin du siècle, maintenant. Les chiffres les plus récents que les experts de l'IPCC lancent. 1,20 m. Mais ces chiffres qu'on donne aujourd'hui, en 2023, avec une augmentation qui est espérée à 2 degrés. On ne sera pas à 2 degrés. Donc on ne sera pas à 1,20 m. Et à 1,20 m, il y a 1 milliard de personnes qui sont touchées par la montée des eaux. Pas uniquement dans les îles du Pacifique. À l'époque, en effet, Kiribati sera un État numérique, le premier à être existé par une adresse kiribati.com, mais qui sera toujours un État des Nations Unies. Mais enfin, tout le monde aura déménagé ailleurs. Mais nous, nos grandes villes, Le Havre, Bordeaux, seront véritablement très atteintes. J'étais il y a quelques heures avec une scientifique de l'État de Brunei, 33 îles, pour 60% du territoire de Brunei. Ce territoire sera recouvert en 2100. C'est évidemment pareil avec l'Indonésie, c'est évidemment pareil aux quatre coins du monde, à New York, à Venise et dans de grandes capitales comme les grandes capitales portuaires chinoises. Donc la mer va se rebeller terriblement. J'en fais non pas la promesse ni le pari, c'est la certitude absolue. Les phénomènes de réchauffement de l'eau, actuellement, grâce à nos 28 degrés à Paris, l'eau de la mer se trouve à 26 degrés de chaleur en Turquie, c'est-à-dire à peu près à 2 degrés de moins que ce qui a fait 10 000 morts en Libye. Vous avez au mois d'août un réchauffement de l'eau dans la mer Ionienne. Il fait très chaud, ça produit de la vapeur. De la vapeur avec les vents, cette tempête devient une tempête subtropicale, et tout d'un coup, 10 000 Libyens qui s'y attendaient pas du tout reçoivent en pleine figure cette tempête subtropicale et ce qui est l'Europe, hein, enfin en tout cas l'Europe du Sud, la Méditerranée du Sud est atteinte. Et donc ces réactions violentes de l'océan que les assureurs, je le rappelle, mesurent de plus en plus. Vous savez qu'il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de communes en France qui sont classées, une centaine, qui sont d'elles-mêmes d'ailleurs proposées pour être classées en tant que site menacé, pour pouvoir bénéficier de soutien, dans mon petit village de naissance, Trégastel. Et bien cet effet de l'élévation de la mer, il est évidemment fâcheux, mais ce n'est pas le seul. Les événements extrêmes vont être nombreux. Donc il faut faire attention à la mer, il faut la protéger, et on ne peut pas la protéger par la simple gouvernance. Alors, ce qu'on va faire à Nice, autour d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dans cette conférence qui devrait être en effet la COP21 de l'océan, qui devrait permettre qu'on signe des accords importants, notamment qu'on conclue ces accords que vous expliquerez tout à l'heure, Alexandre, avec le plastique. en espérant qu'il sera conclu d'ici là, mais rien n'est garanti. Sur les grands fonds marins aussi, des décisions qui doivent se prendre dans les années à venir, mais aussi évidemment sur la création d'aires marines protégées dans ce qui est maintenant aujourd'hui un espace régi, légiféré, à travers le traité sur la haute mer qui a été signé il y a maintenant quelques mois à New York, qui est un traité important puisque c'est un traité de gouvernance sur 60% de la surface globale de la mer. Et donc, nous allons essayer à Nice, avec vous, les entreprises, qui utilisaient souvent de manière extrêmement précautionneuse la mer, parfois pas toujours, mais enfin beaucoup plus entre nous qu'il y a 20 ou 30 ans où on se souvient des grandes marées noires, en l'occurrence. Je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience véritablement, notamment parmi les transporteurs maritimes, de cette importance-là. Mais c'est vrai qu'il faut décarboner très vite. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut décarboner. Le transport maritime, aujourd'hui, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. S'il restait comme il est avec les énergies qu'il utilise, ça serait, je ne sais plus si c'est 2050 ou un peu plus, il serait à 17% de production de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que font aujourd'hui tous nos grands transporteurs, et notamment les Français, soyons fiers d'eux, CMA, CGM, c'est en effet de trouver des solutions de décarbonation, mais évidemment un coût important. Et donc, il faut qu'ensemble, on considère la mer. Il faut qu'on se rende compte que pour ces raisons de respiration, ces raisons de puits de carbone, ces raisons de nourriture, ces raisons de soins, ces raisons aussi affectives, de beauté, de relations qu'on peut avoir avec la mer, il faut la protéger, sans quoi, même si on sait déjà qu'elle va se rebeller à travers des formes violentes, dues principalement aux effets du changement climatique, l'acidification et d'autres éléments. Mais même si on sait ça, on sait qu'on peut atténuer. Voilà. Et la mer, c'est peut-être la dernière frontière. Et en tout cas, c'est elle qui est la plus atteinte aujourd'hui. Et votre engagement, il est tout à fait décisif pendant cette conférence, qui par ailleurs réunira à Monaco, puisque nous serons à Nice, à côté de Monaco, du 5 au 7 juin, 3 000, 4 000 personnalités sur le thème de l'économie bleue et de la finance durable, sous la présidence de Pascal Lamy et de Linia Saïd, qui est l'ambassadrice des îles Palau aux Nations Unies. Sous cette présidence avec Monaco, nous tenterons, après un travail qui aura été fait préalablement avec les grands organismes financiers, les banques, nous tenterons de proposer des solutions financières, des fonds. Nous tenterons aussi de mesurer, en effet, le chemin qui est à parcourir par les entreprises pour être une économie bleue la plus durable. Et donc, cette conférence qui se tiendra à la suite de cette première grande rencontre, d'une autre rencontre scientifique et d'une autre consacrée aux vies littorales, se tiendra à Nice du 9 au 14 juin. Le 14 juin, sortira un texte, un accord, les accords de Nice. Et je pense qu'ils feront peut-être date dans l'histoire de l'océan, parce que pour la première fois, l'exploitation ne sera pas la règle et la protection l'exception, mais on peut imaginer que l'exploitation soit une exception réfléchie, la pêche, sa transition vers l'aquaculture, un transport maritime décarboné, donc que chaque activité économique soit pensée en fonction de sa durabilité par rapport aux océans. Je pense notamment particulièrement au tourisme, mais aussi à tous les points d'accès à l'éolien ou à d'autres sujets de ce type-là, et puis que la protection soit la règle. Si nous protégeons, eh ben, nous pourrons exploiter mieux. C'est exactement ce que nous faisons avec les espèces vivantes, la faune notamment. Il suffit de protéger des espèces pour faire que quelques années plus tard, avec un effet déjà cher maritime, les pêcheurs aillent mieux. Voilà. Donc c'est le petit mot d'ordre de cette conférence qui sera par ailleurs, je vais laisser la parole à Guillaume Thériault, l'occasion pour nous de dire qu'il n'y a pas que le monde anglo-saxon qui est souvent leadership, mais je crois qu'il y a aujourd'hui un écosystème important en France, le cluster maritime, la Fondation de la mer et fait partie de cet écosystème, et vous-même, par votre engagement, le MEDEF, puissant, parce que nous sommes puissants, mais nous sommes raisonnables. Voilà. Et donc, cette année de la mer montrera qu'on est capable, non seulement pendant 6 ou 7 jours à Nice, mais pendant une année entière, de faire vivre et de faire aimer la mer. Je vais laisser Guillaume en parler.
Merci, monsieur l'ambassadeur, cher Olivier. Et merci à l'Académie du MEDEF pour cette invitation à la Fondation de la mer pour qu'on puisse effectivement Vous parlez de l'UNOP, vous parlez de cette année de la mer. J'ai noté que le titre de cette rencontre, c'était des outils pour agir. Et ben voilà, en fait d'outils, on vous propose une année. C'est ça l'outil qui est mis sur la table aujourd'hui et qu'on veut vous présenter et partager avec vous pour que vous vous en saisissiez totalement, pleinement, comme on le fait avec toutes sortes d'outils. Je vais aller très vite sur le début parce que l'ambassadeur a dit évidemment l'essentiel du pourquoi de la Genèse. Cette année de la mer, elle a été décidée par le président de la République. Elle a été annoncée le 8 juin dernier à l'occasion de la dernière journée mondiale de l'océan. Toutes les raisons ont été dites, expliquées, explicitées. Et pendant un an, et pas seulement pendant ces quelques journées de cette conférence décisive pour l'avenir de l'humanité, il s'agit de maritimiser les esprits, les consciences, le pays, tous ses acteurs, tous ses habitants, en contribuant davantage à faire connaître le sujet maritime, ses enjeux, les questions qui restent encore à découvrir, à explorer, faire parler du sujet, le mettre vraiment en tête de toutes les discussions, de tous les agendas, et au final arriver à faire aimer la mer et non pas simplement en avoir peur, comme on en a trop souvent, parce que, Olivier l'a très bien dit, c'est très profond, c'est dangereux, c'est méchant. On a tous vu les Dents de la Mer quand on était petit, et donc on est tous traumatisés par toutes ces images-là. Donc il faut arrêter de regarder la mer dans son dos, comme disait Éric Tabarly quand on fait des selfies à la plage, mais vraiment la regarder dans les yeux, en face, regarder sa surface, regarder ses profondeurs, s'y intéresser. Et finalement, il y a beaucoup de belles choses, et on comprend surtout la relation qu'on a avec elle, qui est une relation vitale. Nos comportements, nos actions ont des conséquences, où qu'on habite, à Paris comme en bord de mer, ont des conséquences sur l'océan. Et nous vivons, Sabine l'a très bien rappelé en préambule de cette rencontre, nous vivons aussi évidemment grâce à l'océan. L'enjeu, c'est de parler de la mer, c'est de parler de cette question de la protection, de ce besoin que nous avons de la mer et de l'amour qu'on doit lui porter, et donc de la protection qui doit être notre priorité. On va l'aborder à travers 5 thèmes que vous avez, l'éducation évidemment, toucher les publics jeunes par la formation, des actions en milieu scolaire. Je sais que la Fondation de la mer est très investie aussi sur cette partie-là. Donc, je sais que nous aurons quelques projets en commun pendant cette année de la mer. La science évidemment, puisque c'est le faire connaître, avoir un état de santé, savoir de quoi on parle, avoir un état de santé précis de l'océan. La culture, qui englobe évidemment la question du patrimoine, je parle sous le contrôle du président du musée de la Marine nationale, mais le patrimoine maritime, l'histoire maritime, mais aussi la gastronomie, toute la culture liée aux produits de la mer. Ici, mais j'y reviendrai, je ferai un zoom évidemment sur le sujet, on va parler économie et innovation, et puis aussi du sport, parce qu'il y a des grands événements sportifs, des régates, des courses qui font rêver. Les enjeux, très rapidement sur cette année de la mer, vous l'avez bien compris, c'est profiter qu'il y a cet événement pour, pendant toute l'année, avant l'UNOC et après l'UNOC, faire monter le sujet, quelque part faire monter la pression, finalement, sur nous-mêmes, faire monter la pression sur la négociation, faire en sorte qu'il y ait une conscience dans l'opinion publique nationale, mais aussi internationale. On l'a dit, la France est un pays monde avec des voisinages dans le monde entier, on y reviendra. Mais donc, c'est l'occasion de faire monter aussi ce niveau de conscience dans l'opinion publique internationale, qui est aussi un moyen de faire pression sur les négociations, sur les décideurs qui vont être enfermés dans une boîte qui est la Blue Zone à Nice, où ils doivent sortir avec des accords qu'on espère décisifs, contraignants, exigeants, avec des calendriers et des budgets. Une année de la mer, c'est long, ça peut être long, donc avec toutes celles et tous ceux qui vont y participer, il faut qu'on tienne la distance, que ça ne lasse pas, que ça ne sature pas. Il y a un enjeu surtout d'ouverture, je pense que c'est très important, ça a été dit, la mer, ça concerne tout le monde, pas que le littoral, pas que les entreprises qui sont dans le domaine maritime. Donc, il y a un vrai enjeu d'ouverture pendant cette année de la mer, de montrer à tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les acteurs qui ne sont pas en bord de mer et qui ne travaillent pas avec la mer, que ça les concerne aussi. Donc, il y a vraiment cet enjeu qui est très important. Et puis, un enjeu peut-être de démocratie maritime, je m'excuse pour l'expression, elle fait un peu débat entre nous dans l'équipe, mais il y a cet enjeu de dialogue à favoriser, à encourager quand même entre acteurs qui ont des relations différentes avec la mer et parfois antagoniques, parfois très, très opposées. Et l'année de la mer peut être l'occasion d'y arriver. Évidemment, cette année, c'est pour ça que nous sommes avec Olivier ravis d'être là aujourd'hui, que vous nous offriez cette occasion d'échange et de présentation, puis d'échange ensuite, dans les semaines qui viennent sans doute. Ça ne peut fonctionner, ça ne peut marcher que si on le fait avec vous. Donc il y a un vrai besoin, un vrai impératif de co-construction avec tout type d'acteurs, mais notamment avec tout le monde économique, comme avec la société civile au sens large, avec les collectivités territoriales, communautés éducatives, acteurs sportifs et acteurs culturels. Donc vraiment, c'est un impératif aussi qu'on travaille ensemble, on est encore dans les temps pour rêver à cette année ensemble, l'inventer, l'imaginer et faire sa programmation avec vous. Quelle forme ça va prendre, cette programmation? On peut passer à la slide suivante que je ne maîtrise pas. Alors, juste, pardon, élément très, très important à avoir en tête, le calendrier, ça a été dit, ça devrait démarrer dans le courant du mois de septembre, peut-être pendant l'été 2024, mais plutôt après les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, évidemment, pour retrouver un peu d'espace médiatique et de visibilité pour cet événement. Et puis l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'été, voire l'automne 2025. C'est-à-dire aussi d'avoir une sorte de retour sur l'année de la mer, retour sur l'UNOC. J'y reviendrai pour être certain qu'on en fait quelque chose. Cette année, elle est d'abord dans les Outre-mer, n'est-ce pas, Olivier?
Bravo.
On va commencer dans les Outre-mer parce que nous sommes cette puissance maritime d'équilibre. Non, mais je retiens ce que tu me dis. nous sommes cette puissance maritime d'équilibre parce qu'il y a ces territoires ultramarins. Et puis, à partir des Outre-mer, évidemment, en parler dans l'Hexagone, et pas qu'on ne dit plus métropole. Et puis, diffuser aussi, peut-être à l'international, parce qu'on a aussi ce réseau. On est cette puissance diplomatique aussi, on est cette puissance culturelle aussi. Je ne sais pas si ça rajoute des branches, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet aussi de diffuser des messages par le soft power et tous ces outils que nous avons, Institut français, Alliance française, Lycée français, dans le monde entier. Donc, finalement, une année de la mer dans le monde, en France et dans le monde. Je vais passer sur celle-ci parce que on est un peu pressé par le temps. Je veux insister sur ce point. C'était déjà l'idée que j'évoquais sur le fait que l'année pourrait s'étirer jusqu'à l'automne, parce que l'idée, évidemment, c'est de montrer qu'en France, d'abord, on est nous-mêmes exemplaires sur ces sujets. Il ne s'agit pas de dire qu'on va convoquer le monde entier pour avancer sur le plastique, la biodiversité, les grands fonds marins, etc. Si en France, d'abord, on n'est pas exemplaire sur tous ces sujets et qu'on ne les défend pas nous-mêmes, entre toutes catégories d'acteurs et sur tous les territoires. Donc ça, c'est quand même un objectif important de cette année, montrer l'exemple, être exemplaire et travailler ces questions d'abord entre nous. Et puis aussi, nous projeter au-delà de 2025. On ne peut pas faire une année de la mer qui soit juste une belle opération de communication avec de magnifiques événements locaux, nationaux, avec des paillettes ou avec des choses de terrain très sympathiques. Il faut que ce soit quelque chose qui nous permette surtout de poser des fondations pour l'après 2025, puisqu'on est sur des enjeux à 2030, 50, voire 2100, comme le disait l'ambassadeur. Et ça sera fait grâce à une programmation qui va intégrer à la fois des temps forts, de grands événements avec des partenaires. Ça peut être le MEDEF, pourquoi pas, sur les prochaines rencontres des entrepreneurs de France. Why not? Et ça peut être des événements aussi qu'on organisera exprès à l'occasion de cette année de la mer. Et puis des choses plus locales qu'on pourra susciter à travers des appels à projets, des appels à participation, des labellisations d'événements. Je vais aller directement sur la dernière slide pour aller vite. Voilà, ça c'est les temps forts. Il y aura des incitations comme vous aurez ce document. Un petit zoom sur ce qui est prévu déjà aujourd'hui en matière économique, puisque c'est un des 5 thèmes de l'année. Alors évidemment, les assises de la mer qui sont organisées chaque année à la fin du mois de novembre, les assises de la mer 2024 qui auront lieu à Bordeaux avec le centenaire du port autonome et 2025, je ne sais pas encore où, évidemment qu'elles vont être marquées fortement de l'empreinte année de la mer. Dès cette année d'ailleurs, Olivier sera présent aux assises de la mer à Nantes déjà pour leur parler de l'UNOC et de cette année de la mer. Donc ça, évidemment, c'est un événement qui va être important pour l'aspect faire parler, mais ça ne peut pas être le seul. Donc, avis à toutes les bonnes volontés pour proposer d'autres séquences qui permettront aussi d'avoir des échanges en matière économique. Une convention des entreprises pour le climat et l'océan, ou pour le climat bleu, ou pour l'océan tout court. On n'a pas encore arrêté l'intitulé, mais c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler avec la Fondation de la mer, avec le cluster maritime français, avec l'ONG Respect Océan. Vous comprenez l'idée, il y a eu une convention des entreprises pour le climat qui a été le pendant économique de la convention des citoyens pour le climat. L'expérience a été suffisamment impactante pour qu'une association qui s'appelle maintenant Impact se crée et commence à perler, à diffuser cette expérience CEC avec des CEC territoriales et des CEC thématiques. Donc nous leur avons fait la proposition à CEC Impact d'organiser peut-être une CEC bleue ou carrément d'inventer un objet qui s'inspire des CEC, qui serait un objet nouveau, une convention des entreprises pour l'océan, qui associerait des entreprises du monde maritime, de l'économie bleue, mais aussi d'autres entreprises pour travailler sur cette question de l'impact des activités économiques sur l'océan et la façon dont on peut passer, c'est le principe des CEC, d'une économie extractive à une économie régénérative. C'était l'appel que vient de nous lancer l'ambassadeur pour en finir enfin avec les énergies fossiles. Un forum sur l'économie et la finance bleue, ça a été présenté par Olivier, avec en plus, dans les événements parallèles que nous allons organiser, promouvoir, accompagner à l'occasion de l'UNOC à Nice, une exposition qui va s'appeler Ocean Tech Expo, qui va vraiment être ce lieu de rencontre entre la science, l'économie, l'investissement, les start-up et les décideurs politiques, puisqu'on va parler d'innovation maritime, on va montrer le génie maritime du monde entier avec des objets qui travaillent sur les questions énergétiques, sur les questions de carbone bleu, surtout c'est d'exploration scientifique, et avoir de vrais objets à montrer, à présenter, et faire se rencontrer ces différentes catégories d'acteurs dans la Green Zone à Nice. Et je vous laisse sur ce point d'interrogation, et vous, voilà, vous êtes tout à fait libre à partir de maintenant, je vous l'ai dit, c'est une année à co-construire ensemble, et la proposition c'est vraiment que vous nous fassiez remonter par le MEDEF, par la Fondation de la Mer, par vous-même, par les différentes fédérations, qu'elles soient littorales, qu'elles soient dans les Outre-mer ou qu'elles soient sur des sujets qui ont un lien, qui peuvent avoir un lien, un impact avec le maritime, proposition d'exposition, proposition de conférence, proposition de rencontre, venir alimenter ces idées de convention des entreprises pour le climat ou convention des entreprises pour l'océan. On est, à partir de cet instant, comme on est déjà avec quelques-uns, à votre écoute pour co-construire cette année de la mer dans la perspective de l'UNOC et surtout dans la perspective de ce qui nous engage, ce qui doit nous engager pour 2030, 50 et 2100. Merci.
Merci, chère Laurence. Merci au MEDEF. Merci, monsieur l'ambassadeur, cher Olivier. Merci, cher Guillaume. Gardons un œil sur la pendule. Je vais essayer d'être bref. Je veux vous entretenir du traité contre la pollution par les plastiques. Certains d'entre vous connaissent déjà ce sujet. Certains ont peut-être lu le projet qui avait été rédigé par le secrétariat du PNUE. D'autres sont peut-être moins familiers autant avec les enjeux qu'avec la démarche actuelle. Je veux simplement d'un mot rappeler, non pas les enjeux de la pollution par les plastiques que je pense que vous connaissez tous, mais quelques chiffres que vous n'avez pas nécessairement en tête, sur lesquels nous avons travaillé à la Fondation de la Mer, et qui nous permettent de la photographie un peu angoissante que nous connaissons, de révéler ce qui pourrait, et nous allons tout faire pour que cela ne devienne pas, devenir un véritable film d'horreur. Depuis 1960, la population mondiale a été multipliée par 2,5 et la production de plastique a été multipliée par 40. En 20 ans seulement, on a multiplié par 2 la production mondiale de plastique, passant de 230 millions de tonnes à 460 millions de tonnes. On doit être à peu près à 500 millions de tonnes maintenant, sont les chiffres de l'OCDE sur lesquels on a travaillé à la Fondation de la Mer. C'est un chiffre un peu incroyable. Aujourd'hui, le poids, la masse de plastique atteint le double de l'ensemble du monde animal sur la planète. Et annuellement, on produit plus de plastique que de pommes de terre dans le monde. On est à 390 millions de tonnes de pommes de terre produites dans le monde et on est maintenant à 500 millions de plastique. Donc on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique, mais on en produit beaucoup, beaucoup parce qu'on en consomme énormément. Vous connaissez tous ce chiffre des 19 tonnes de plastique à la minute qui se déverse dans l'océan. Si rien ne fait d'ici à 2060, nous serons à 290 tonnes à la minute de plastique dans la nature, dont une grande partie serait déversée dans l'océan. Et ça, c'est ce que nous ne souhaitons pas, et c'est le film d'horreur que nous, auquel nous souhaitons renoncer, et donc il nous faut agir. Peut-être slide suivante, merci beaucoup. L'humanité dépassée par la masse de plastique parce qu'on produit et on consomme énormément de plastique. Ça, c'est en dynamique les différents types de plastique. Ils sont importants et ils nous concernent tous et ils vous concernent parce que dans le cadre des négociations actuelles pour un traité international contre la pollution plastique à caractère contraignant, j'insiste beaucoup sur ce point-là, naturellement, il y a un certain nombre de plastiques qui vont être ciblés de manière prioritaire. Dans le monde, 81% des plastiques produits annuellement, et ça va aller s'accélérant, ont une durée de vie inférieure à un an. C'est naturellement ces plastiques-là qu'il nous faut cibler de manière prioritaire. Le but n'est pas de supprimer les plastiques du monde, ça serait d'ailleurs illusoire, et dans certains cas, les matériaux plastiques sont des matériaux qui restent absolument extraordinaires. Simplement, ces matériaux à usage plastique qui pour 80% d'entre eux servent à emballer d'autres produits, eh bien on en consomme et on en produit trop aujourd'hui. Peut-être slide suivante, merci infiniment. Il y a un paradoxe entre l'utilisation de plastique dans le monde et dans le rejet dans la nature. On voit bien que l'utilisation par an et par habitant de plastique est très inégale dans le monde. Aux États-Unis, 250 kilos de plastique par an et par habitant utilisés annuellement. On est à 150 kilos par an et par habitant en Union européenne, 66 en Chine, 30 en Afrique, et évidemment, il va y avoir un effet de rattrapage, et donc il va y avoir un effet d'accélération. Donc il ne s'agit pas simplement de dire « nous souhaitons produire moins de plastique », il s'agit de se donner les moyens pour que cette production de plastique qui va s'accélérant soit dans un premier temps contenue et dans un second temps stoppée et limitée. Le problème de la pollution plastique, ce n'est pas uniquement un problème de gestion des déchets, mais c'est beaucoup un problème de gestion des déchets. Aujourd'hui, mais vous connaissez ce chiffre, j'imagine, 9% uniquement de plastique dans le monde sont recyclés. À horizon 2060, au rythme actuel, et selon les projections de l'OCDE, il n'y en aurait que 19%. Et donc, énormément, 23% de plastique qui serait mal géré hors OCDE et 61% qui seraient incinérés ou mis en décharge officielle avec les conséquences que nous connaissons sur la nature. C'est pour cette raison qu'il y a eu, en 2022, 175 pays qui se sont mobilisés dans le cadre de l'Assemblée générale du PNUE pour pouvoir mettre en œuvre un traité international à caractère contraignant pour mettre d'ici 2040 un terme à la pollution par les plastiques. Pour limiter la, on peut revenir sur la slide précédente, pour limiter la consommation et la production de plastique à des niveaux qui soient soutenables et durables, pour promouvoir l'économie circulaire, pour assurer une collecte. Il y a un avant-projet qui a été rédigé, 5 sessions, vous les connaissez, mais on les rappelle. La deuxième, on en a beaucoup parlé en France, qui s'est tenue à l'UNESCO en mai et en juin dernier, et qui a permis cette session, et c'était très important, d'aboutir à un avant-projet qui a circulé fin août et qui est désormais sur la table des négociations. Cet avant-projet, il est composé, comme tous les grands accords multilatéraux sur l'environnement, de grandes parties et puis d'annexes. Les annexes, elles sont importantes parce que c'est là qu'on va avoir les objectifs concrets et chiffrés. Ça veut dire que dans le temps, on peut les amender sans avoir à modifier le contenu même de l'accord, avec plusieurs objectifs qui sont envisagés, des plans nationaux qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir prendre en compte et se conformer au futur texte qui doit être négocié, on l'espère, d'ici 2024, mais plus vraisemblablement en 2025, et pourquoi pas au moment de l'UNOC. La Fondation de la Mer est très mobilisée dans le cadre de ces négociations, et c'est pour ça qu'on veut vous lancer un appel et vous faire une proposition de collaboration. Nous sommes mobilisés parce que nous sommes accrédités par le PNUE pour participer à ces négociations. Nous y travaillons, nous avons développé une pensée sur de nombreux sujets qui est parfois même chiffrée, et sur tous ces sujets-là, le fait de pouvoir proposer d'ici 2030 30% de plastique à usage recyclé dans les plastiques à usage unique, de le généraliser à 50% d'ici à 2050, le fait d'interdire tout un tas d'additifs, de baisser la production des plastiques primaires, d'avoir des trajectoires visant à stabiliser à brève échéance la production et la consommation de plastique mondial, mais avec quel chiffre, d'intégrer l'éco-conception, le fait de pouvoir aussi proposer un fonds multilatéral ad hoc pour venir en soutien aux pays du Sud, pourquoi pas qui pourrait être abondé à hauteur de la consommation annuelle par an et par habitant des différents pays. Sur tous ces sujets, nous souhaitons travailler avec vous, avec les entreprises. La branche, l'axe de l'innovation va être très important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de crier à la réduction de plastique. Il va falloir trouver des alternatives, et des alternatives qui soient viables, durables et soutenables. Et c'est pour ça que nous vous proposons de rejoindre ce mouvement des entreprises aux côtés de la Fondation de la Mer, avec l'adresse que nous vous indiquons sur cette présentation, à la fois pour être informés, et dans le cadre des prochaines négociations, recevoir des lettres d'informations spécifiques sur les négociations qui vous permettront en temps réel de suivre les négociations de l'intérieur et de pouvoir y participer, et de, dans le cadre de groupes de travail que nous vous proposons de mettre en place avec vous, contribuer à cette pensée que la Fondation de la Mer portera dans le cadre des négociations qui se tiendront dans le cadre du PNUE et jusqu'à 2024 et jusqu'à 2025. J'espère ne pas avoir été trop long. En tout cas, nous sommes à votre disposition à la Fondation de la Mer. Vous connaissez notre ADN, notre identité, pro-business, mais sans concession. Et ensemble, nous pensons et nous sommes convaincus que nous pouvons faire une grande différence. Donc, sur tous ces sujets, rejoignez-nous et rejoignez la réflexion qui est en cours. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Alexandre. Alors, Vincent, des outils pour aider les entreprises?
Oui. Alors, que peuvent faire les entreprises pour mettre en œuvre tous les souhaits, j'allais dire toutes les prières qui ont été exprimées depuis le début de la session aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter quelques outils simples. Mais d'abord, est-ce que toutes les entreprises sont concernées ? Ben, oui, toutes les entreprises sont concernées parce qu'elles ont toutes, des impacts, elles ont toutes des risques et des pressions. Les impacts, même une entreprise qui dit « moi, je n'ai pas de pollution physique et chimique », elle a des impacts. Elle a des impacts parce qu'elle consomme de l'énergie. Elle a des impacts parce qu'elle achète des biens et des services qui viennent d'autres entreprises qui, elles, ont des impacts. Elle a des impacts parce que toutes les entreprises ont des déchets, comme par exemple même une entreprise tertiaire qui est dans des bureaux comme ici, a des déchets. Elles ont des risques. Alors, pas toutes, mais beaucoup sont concernées par les risques qui ont été évoqués tout à l'heure, la montée des eaux, la pénurie de ressources venant de la mer. Et puis, beaucoup d'entreprises, et de plus en plus d'entreprises, y compris celles qui sont loin de la mer, qui n'ont pas de business très maritime, sont concernées par les pénuries en eau douce. Et puis, elles ont surtout des pressions, puisque les citoyens ont des attentes croissantes, attentes de la part des entreprises. Ces citoyens sont les clients, ce sont aussi les salariés des entreprises. Et puis, la puissance publique met en œuvre des réglementations qui visent à répondre à ces attentes et puis aux urgences qu'on a évoquées, et donc qui sont croissantes. Tout ce contexte environne les entreprises, et la Fondation de la mer est assez bien placée pour y répondre à cause de ce qui a été évoqué tout à l'heure par Sabine, c'est-à-dire la diversité des interlocuteurs qu'elle fédère, et elle est donc en mesure, on peut peut-être revenir, Laurence, à la slide précédente, voilà, merci, elle est donc en mesure de fournir des actions assez nombreuses et assez variées qui peuvent être mises en œuvre pour répondre à ces besoins des entreprises, comme par exemple vis-à-vis des salariés des entreprises, nous sommes en mesure d'organiser des conférences pour faire de la pédagogie à disposition des salariés des entreprises. Nous avons aussi organisé des collectes de déchets pour mobiliser les collaborateurs d'une entreprise. Ça, c'est pour la partie collaborateurs. Nous avons aussi la possibilité de proposer aux entreprises de contribuer par du mécénat à des programmes de protection ou de recherche sur l'océan. Et enfin, je vais vous présenter rapidement deux outils qui sont à disposition de toutes les entreprises pour évaluer leurs impacts et y remédier. Alors, ces deux outils sont sur cette slide. Donc, le premier, celui qui est sur la gauche de la slide, qu'on appelle le référentiel océan. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une grille d'analyse. Alors, dans cette grille, il y a environ 40 thématiques, un peu plus de 40 thématiques, qui ne sortent pas de nulle part, puisqu'en fait, elles sont issues de l'ODD 14 et de l'ODD 6, donc les objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont permis d'identifier finalement toutes les questions qu'on doit se poser pour connaître, évaluer les impacts d'une entreprise. Alors, le travail est assez simple dans le concept, hein, c'est d'aborder toutes ces thématiques et de regarder si l'entreprise a ou non un sujet sur chacune de ces questions. Alors, c'est un travail qui peut être fait par l'entreprise elle-même, si elle a des personnes qui ont la compétence pour le faire. Et sinon, ça se présente assez souvent aussi, la Fondation de la mer peut mettre l'entreprise en relation avec un consultant spécialisé qui va faire ce travail. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Une fois que ce travail est fait, j'ai envie de dire que l'essentiel est fait, puisque l'entreprise, elle a regardé ses impacts, elle a identifié les actions qu'elle doit mettre en œuvre pour y remédier. Je dirais que si elle s'arrête là, c'est formidable. Mais certaines entreprises ont intérêt ou y voient un intérêt de pouvoir communiquer et de pouvoir obtenir une reconnaissance du fait qu'elles ont effectivement fait ce travail. Et là, c'est le deuxième étage de la fusée. On peut s'engager dans une démarche de labellisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait venir un auditeur, ça peut être le Bureau Veritas ou SGS, peu importe, qui va regarder le travail qui a été fait, valider que le travail a été fait de façon approfondie et que les plans d'action qui sont proposés sont valides et sont à même de répondre aux impacts. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise obtiendra le label Ocean Approved, qui est délivré par la Fondation de la mer. Alors, comment ça marche ? J'ai déjà presque tout dit, puisque la première partie du travail, c'est le travail avec le référentiel. Et la deuxième partie, c'est le processus de labellisation. Après les résultats de l'audit, il y a notre gouvernance prévoit qu'un comité de la Fondation de la mer se réunit pour examiner les résultats de l'audit, vérifier un certain nombre de points et attribuer la labellisation avec deux mentions possibles qui sont engagées et avancer suivant le niveau de maturité de l'entreprise. Hein, si l'entreprise a juste identifié ses impacts et mis en place le plan d'action, c'est déjà pas mal, elle est engagée. Si l'entreprise a déjà un peu plus de maturité et peut présenter déjà des résultats, elle aura la mention avancée.
Et juste une question dans le chat, combien d'entreprises sont labellisées Oceans Approved ?
À ce jour, 4 entreprises ont été labellisées. Je vais vous en présenter une tout à l'heure, d'ailleurs la petite dernière, je dirais. Et puis, un certain nombre d'autres entreprises sont en cours de travail pour avancer sur la labellisation. Je peux passer donc maintenant, je voudrais juste, puisqu'on n'a pas trop de temps, mais quand même insister sur 3 points qui sont essentiels dans cette démarche. Le premier, c'est qu'on n'est pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. On est un petit peu plus dans l'esprit, si vous voulez, des universités anglo-saxonnes, c'est-à-dire qu'on valorise plus le progrès, le chemin parcouru. Donc, on va pouvoir accompagner les entreprises, quel que soit le point de départ où elles se trouvent. Certaines ont déjà beaucoup travaillé sur les impacts, d'autres pas du tout. Mais ce qui importe, c'est le chemin et l'écart, parce que finalement, c'est ça notre mission, c'est de faire en sorte que les impacts sur l'océan soient diminués. Ensuite, le deuxième point important, c'est que notre démarche, je vous ai parlé tout à l'heure du référentiel, donc la grille d'analyse au singulier, comme s'il y en avait qu'une. En fait, nous sommes en train de la décliner par secteur d'activité parce que nous nous sommes rendus compte dans la pratique que cette liste de questions qui est très générale, qui aborde tous les sujets, est parfois déroutante dans un secteur d'activité parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est comme dans la déclaration d'impôt, il y a beaucoup de cases vides, il y a beaucoup de questions qui ne concernent pas l'entreprise. Donc, si on fait une déclinaison par secteur, on va se retrouver avec des listes beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus adaptées. Et ça, nous sommes en train de le faire. Nous l'avons fait pour l'hôtellerie, pour le textile, pour l'industrie cosmétique, pour le secteur maritime, bien sûr. Et à chaque fois, cette déclinaison s'accompagne d'une opération pilote avec des entreprises volontaires pour nous aider à affiner encore cette déclinaison. Et enfin, dernier point important, cette démarche, j'ai écrit qu'elle protège du risque de greenwashing. Aujourd'hui, il y a effectivement assez souvent une remise en cause de la démarche de certaines entreprises au motif que, et parfois c'est un peu justifié quand même, qu'elles feraient du greenwashing. Là, la démarche qui est proposée, comme vous l'avez compris, elle est quand même assez lourde, hein, on va un peu en profondeur, on se pose beaucoup de questions, on fait un audit, mais c'est la contrepartie d'une sécurité en quelque sorte qui est de faire un vrai travail, un travail qui ne pourra pas souffrir ce genre de critiques. Voilà, et je termine par l'illustration, donc la dernière entreprise labellisée par la Fondation de la Mer. C'est une entreprise du secteur cosmétique, elle s'appelle Pimpant, c'est un petit challenger à côté d'immenses leaders de cette industrie. Alors l'industrie cosmétique, elle a plusieurs problèmes, hein. Elle utilise des substances parfois toxiques, elle prend ses ingrédients dans le monde maritime, c'est les champions du monde de l'emballage, et enfin, elle a des consommateurs qui sont de plus en plus regardants sur l'innocuité pour l'environnement des produits. Donc cette société s'est positionnée vraiment à festienne, presque dans son identité à Festien, l'objectif d'améliorer son impact, enfin de diminuer son impact sur l'océan, en travaillant d'une part sur les déchets générés, d'autre part sur les formulations de ces produits qui élimineront désormais tous les produits toxiques. Et puis, elle a ajouté un volet, cette fois-ci peut-être plutôt pour faire vraiment participer ses collaborateurs, un volet de pédagogie, puisque ces personnes, elles sont installées dans une petite ville, ces personnes participent à des programmes pédagogiques tels que ceux que nous évoquions tout à l'heure, pour donner une dimension sociale, sociétale à leur action. Donc elles vont bien au-delà de leur simple business. On pourrait parler, c'est une entreprise citoyenne, voilà, on pourrait parler d'entreprise à mission, c'est un peu le concept. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces outils. Je n'ai malheureusement pas plus de temps pour être plus détaillé, mais si vous aviez envie d'en savoir plus, naturellement, je suis à votre disposition pour organiser avec votre entreprise ou avec les entreprises de votre réseau des présentations plus détaillées, plus précises et répondre à toutes vos questions.
Merci beaucoup, Vincent. Allez, on se donne le temps de répondre à une question dans le chat. L'outil référentiel Océan est-il gratuit Et peut-il être fait en autonomie et valorisé ainsi?
Alors, la réponse, oui, il est gratuit. Il est d'ailleurs accessible, vous pouvez le télécharger sur le site de la Fondation de la Mer. Et peut-il être fait en autonomie? Alors ça va dépendre. Ça va dépendre si vous avez des personnes au sein de votre structure, de votre entreprise, qui ont la compétence nécessaire pour le faire. Et sinon, à ce moment-là, on peut vous mettre en relation avec des consultants spécialisés qui, eux, ont la compétence.
Ben merci beaucoup. Malheureusement, nous devons nous arrêter. C'est le principe de la MEDEF Academy. C'est une heure. On remercie infiniment nos intervenants qui nous ont donné envie de nous mobiliser et d'agir. Et nous reviendrons vers vous sur ce sujet extrêmement important. Merci beaucoup et à bientôt.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.